Bonjour, merci. Moi, j'ai l'impression depuis ce début de réunion qu'on parle de tout et tout le monde, sauf des personnes handicapées et des personnes âgées. Alors, j'avais envie justement, et c'est le rôle de notre association, d'en parler. Et contrairement au GR31, nous, on aurait voulu faire une motion sur les difficultés rencontrées dans leur vie et même de manière vitale par les personnes concernées. J'ai trois points à évoquer, je vais faire le plus vite possible. D'abord, le confinement. On se rend compte que ce confinement et bientôt le déconfinement entraînent des règles discriminatoires pour les personnes handicapées. Je vais vous donner des exemples. En fait, les personnes qui vivent dans des institutions, que ce soit EHPAD ou ESMS, ne peuvent pas avoir les mêmes possibilités que tous les citoyens de sortir, voilà, de décider par elles-mêmes des risques qu'elles prennent, etc. Nous, à notre association et de manière totalement générale, on défend l'autodétermination, c'est-à-dire le choix des personnes à décider pour elles-mêmes. Quand le Premier ministre a commencé à ou le président même d'ailleurs, a commencé à dire que les personnes vulnérables devraient sans doute rester confinées. Je suis désolée, mais c'est non. La personne, elle décide elle-même si elle prend ses risques pour sa vie, pour sa santé. Et voilà, on n'est pas des sous-citoyens. Donc on en a déjà parlé, mais les visites en EHPAD ont été quand même totalement interdites. Elles sont maintenant réautorisées, mais sous des conditions très limité. En EMS, a priori, il n'y a pas de visite. Les sorties, c'est sous contrôle et sous le choix des directions des professionnels. C'est quand même des discriminations flagrantes pour nos droits les plus basiques. Alors, je voulais parler aussi du domicile. Les dérogations à domicile ont été compliquées à mettre en œuvre. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'être accompagnés pour sortir de chez elles, faire des courses, etc., se sont vus souvent compliquer l'existence, enfin, par des difficultés d'accompagnement. On en a parlé un tout petit peu, mais les services qui accompagnent les personnes à leur domicile ont vu, et c'est normal, et c'est comme ça partout, des difficultés de personnel. Elles ont eu aussi à mettre en œuvre des nouvelles règles disant que seuls les besoins vitaux devaient être, comment dire, perdurés, quoi, enfin, accompagnés. Sauf que, du coup, ça a donné beaucoup de difficultés aux personnes dans leur quotidien pour mener leur vie et elles aussi pour faire valoir leur droit à sortir 1 heure, par exemple, par jour de chez elles, etc. Et tout ça a été beaucoup remis sur les épaules des aidants familiaux, des familles, quand ils en ont. Deuxième point que je voulais aborder, c'est les protections individuelles. Enfin, pour plus de clarté, on parle des masques, même si ça regroupe aussi tout l'ensemble, visière, gants, surblouse, etc. On sait qu'il n'y en a pas assez en institution, c'est flagrant. À domicile, on est passé d'un service organisé autour des pharmacies à des services organisés par les ARS, puis certainement maintenant plutôt les conseils départementaux. Bref, on ne sait pas si les gens ont suffisamment de masques, etc. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'en emploi direct, donc c'est les personnes qui embauchent elles-mêmes leurs assistants de vie pour les actes de la vie essentielle, ça a été, et c'est encore, tout un bazar, pour rester poli. On nous demande de fournir des tonnes de paperasse, les consignes contradictoires changent toutes les semaines, et pour vous donner une des choses qui me fait le plus hurler, c'est que les personnes qui ont la PCH, bon, c'est mon cas, on a le droit à 9 masques par semaine et par salarié, quand les gens qui ont l'APA ont droit qu'à que 3 masques. Je ne sais pas pourquoi. Leurs besoins sont moindres que les miens. C'est un choix politique de moins protéger les personnes âgées et les salariés. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on nous réponde sur ce genre de choses. Quant aux aidants familiaux, donc j'ai déjà dit juste au-dessus que, en fait, ils étaient sursollicités par diverses soucis, c'est-à-dire qu'il y a moins d'intervention des services d'aide à domicile. C'est aussi le fait qu'il y a des gens qui ont refusé les services d'aide à domicile puisque celles-ci n'étaient pas protégées. Toujours est-il que les aidants familiaux sont très sollicités et eux ont droit à zéro masque. Zéro. Voilà. Les personnes handicapées elles-mêmes, les personnes âgées aussi, donc certaines sont vulnérables, et parmi les principales concernées par ce virus, elles n'ont reçu zéro masque pour elles-mêmes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Et enfin, je vais terminer sur le troisième point. Je vais faire très vite. C'est du coup le message que vous n'avez pas trop apprécié et que je vais redire parce que certains n'ont pas lu. C'est que... oui, du coup, j'avais mis un petit... Je vais juste relire le message, je crois que j'avais parlé de « On parle quand du génocide eugéniste ?» Mes mots sont pesés. Le génocide... Voilà. Et bien, du coup, déjà, j'aurais voulu peut-être qu'on commence ce conseil par une minute de silence pour tous nos morts. Parce que là, on est quand même à quasiment la moitié des morts français qui sont des personnes que le conseil représente, c'est-à-dire des personnes handicapées ou des personnes âgées en établissement. Pourquoi n'a-t-on pas fait cette minute de silence? Pourquoi n'a-t-on même pas, et vous, Madame la Présidente, pourquoi n'avez-vous même pas évoquer ces morts. Donc je vais exprimer un peu plus en détail mes propos. Moi je demande des explications, et il va y avoir sans doute, et vous y attendez probablement, des procès, parce qu'il y a eu, et il y a encore, du tri dans les personnes qu'on soigne et les personnes qu'on décide de ne pas soigner. C'est ça que j'appelle l'eugénisme. En institution, par exemple, quand on regarde les chiffres qui ont mis beaucoup de temps à arriver, on se rend compte d'un nombre énorme de décès en EHPAD. C'est-à-dire que c'est des gens qui allaient très très mal et n'ont pas été sciemment envoyés à l'hôpital. Pareil à domicile. Alors là, les chiffres sont... on n'en a pas. Mais on a su et on le sait qu'il y a des consignes pour les soignants, le SAMU, les médecins traitants, de ne pas envoyer des personnes comme moi, comme des personnes âgées, comme des personnes handicapées avec des déficiences intellectuelles, etc. Ne pas les envoyer à l'hôpital parce que, soi-disant, nos vies valent moins. Autre chose, et qui est beaucoup moins virulente pour ma part, c'est l'accompagnement à l'hôpital. Déjà en temps normal, les personnes dépendantes ont parfois des difficultés à faire entendre leurs besoins d'accompagnement par des tierces personnes, familles, professionnels de l'accompagnement, qui sont nécessaires à leur quotidien, parfois à leur communication, etc., à leur vie, à leur survie. Et du coup, là, en temps de crise sanitaire, cet accompagnement est totalement nié. Voilà, j'en arrête là. Et je voulais vous dire que je ne vais pas rester parce que je trouve insupportable de pouvoir imaginer que vous allez voter le budget et parler de choses autres que ces difficultés vitales que rencontrent les personnes actuellement.